Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, y a-t-il un agenda valsiste ? Les discussions politiques sont dangereuses, que ce soit en famille ou au bureau. Tout peut très vite dégénérer selon qu'on soutient tel camp ou tel autre. Un nom peut néanmoins vous aider à vous rabibocher, Manuel Valls. Un nom qui fédère, mais le plus souvent à ses dépens. Un sondage publié en mai 2017 en faisait la personnalité politique la plus détestée devant Marine Le Pen. Alors à l'époque, tout indiquait que pour l'ancien Premier ministre de François Hollande, une longue traversée du désert s'annonçait. Il avait trahi son camp en refusant de soutenir le vainqueur de la primaire de gauche. Il allait prendre une nouvelle gifle en n'obtenant pas l'investiture pour les législatives de La République En Marche. Et pourtant, aujourd'hui, impossible d'échapper à Manuel Valls. Le député de l'Essonne occupe le terrain médiatique. Il l'occupe physiquement, mais les idées qu'il défend, autorité, laïcité, réformisme, sont également très présentes dans le débat. Alors, y a-t-il un agenda valsiste ? C'est autour de cette question que va se dérouler la discussion ce soir jusqu'à 19h, en compagnie, puisque c'est le club des idées d'un des membres de ce club, Brice Couturier. Bonsoir.
Bonsoir, Ave.
Le Tour du Monde des idées, c'est sur France Culture du lundi au vendredi à 11h53. On peut également vous lire dans vos chroniques pour le magazine Le Point. Deux invités nous ont rejoints ce soir. Bruno Cotrez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, et vous enseignez à Sciences Po. Et puis le deuxième invité, c'est Frédéric Mettezo. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Journaliste à France Inter, dont vous avez dirigé le service politique. Vous êtes également l'ancien chef du service politique de France Culture. Alors quand nous avons annoncé que nous allions faire une émission autour de Manuel Valls et du valsisme, il y a eu quelques réactions, notamment sur les réseaux sociaux, nous demandant si ce n'était pas une blague du 1er avril, puisque manifestement, c'est un nom qui, dès qu'on le prononce, a tendance un petit peu à crisper. Est-ce que vous partagez déjà ce constat, les uns et les autres ? Est-ce que cette crispation, c'est à son corps défendant, ou bien est-ce que ça fait partie déjà d'une stratégie qui est assumée par Manuel Valls, peut-être pour exister politiquement, Bruno Cotrez ?
C'est sûr que Manuel Valls s'est toujours inscrit dans un répertoire qui était un répertoire d'affirmation de lui, beaucoup contre les autres. Alors c'est vrai qu'il a eu à s'affirmer à l'intérieur du Parti Socialiste, idéologiquement. Il vient d'une gauche qui n'a pas toujours été majoritaire au sein de sa famille politique. Et Manuel Valls, effectivement, a longtemps été surtout marqué par le score qu'il avait obtenu à une primaire du Parti Socialiste. Et on disait, bah, finalement, comment se fait-il qu'il a fait 5% puis il se retrouve Premier ministre ensuite. Donc c'est vrai que Manuel Valls, sa figure, sa posture générale a toujours été celle d'une personnalité qui a à combattre pour s'affirmer, à être plutôt dans le débat politique extrêmement fort, dans l'affirmation de soi-même par des idées assez carrées, par des propos qui ont marqué sa famille politique et le débat public. Donc il est finalement pas tellement étonnant de le retrouver aujourd'hui toujours dans cette position, c'est-à-dire d'une personnalité qui ne fait pas l'unanimité.
Frédéric Mettezo.
Manuel Valls, il est rocardien pendant les septennats Mitterrand, pendant le mitterrandisme triomphant. Déjà, c'est la position du minoritaire. Il est donc, on va dire, pour faire simple aujourd'hui, social-démocrate, voire social-libéral. Et en même temps, il est adjoint du maire communiste d'Argenteuil, parce qu'avant d'avoir été élu à Évry, il a été élu pendant plusieurs années à Argenteuil. Donc là encore, il choisit pas forcément le sens du vent là où il se trouve. Et puis Manuel Valls, tout au long de sa carrière, il a tenu des propos iconoclastes. En 2008, il dit qu'il faut changer le nom du Parti Socialiste. Pendant le mandat de François Hollande, dans le premier numéro du Nouvel Obs, rebaptisé L'Obs, il livre un grand entretien où il regrette qu'il n'y ait pas eu la constitution d'un arc central qui aurait accueilli François Bayrou. Et puis, dernier positionnement quasiment structurel de Manuel Valls, il a toujours refusé de monter, vous savez, son courant, sa petite boutique au sein du PS. Ça l'a jamais amusé, les congrès. Il a essayé une fois de porter une motion et il avait soutenu Ségolène Royal. C'est Martine Aubry qui a gagné. C'est des choses qui l'embêtent. Donc Manuel Valls...
Ça l'embête pourquoi ? Parce que ça le contraint dans sa liberté d'expression. Enfin, il pense que ça pourrait le contraindre d'être trop entouré et d'avoir un courant un peu constitué.
Voilà, c'est ça. Manuel Valls, il fonctionne avec un gang, je dirais, entre guillemets. Il fonctionne pas avec un courant étoffé. Donc constituer un courant, c'était pas du tout sa façon d'être et de faire.
Brice Couturier.
En fait, Michel Rocard, qui était donc le mentor de Manuel Valls, avait raison. Il y a toujours eu deux gauches dans ce pays. Il y a une gauche étatiste, autoritaire, centralisatrice, jacobine, tentée par le grand soir et peu regardante sur les libertés publiques qu'elle estime relativement superflues puisque c'est l'égalité qui lui importe. Et puis vous avez une autre gauche, la deuxième gauche, comme disait Rocard, dont Manuel Valls est le dernier produit sur le marché disponible. C'est une gauche réformiste, antitotalitaire, modernisatrice, mindésiste, soucieuse de toutes les menaces pesant sur les libertés publiques et sur les libertés individuelles, qu'elle ne considère nullement comme bourgeoise ou formelle. Manuel Valls, donc, était le fidèle lieutenant de Rocard. C'était le dirigeant des jeunes rocardiens. Je l'ai connu à ce moment-là, sous cette responsabilité.
Et ils étaient quelques-uns à être des jeunes rocardiens à l'époque.
Non, le président des jeunes rocardiens, oui. C'était Manuel Valls. Certes. C'était lui.
Est-ce que je veux c'était dire, il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qui fait que Benoît c'est Hamon. Lui, aujourd'hui? Voilà, il y avait par exemple Benoît Hamon.
Oui, enfin, il n'était pas le responsable. Oui. Le responsable des jeunes rocardiens, c'était Manuel Valls. Je l'ai connu. C'était même au congrès des arcs des jeunes, à l'université des jeunes rocardiens. Des arcs, où j'étais présent d'ailleurs, que Manuel a été désigné par nous tous comme président des jeunes rocardiens. Donc c'était vraiment l'héritier légitime de Rocard. Il y a d'autres qui ont fait partie du cabinet de Rocard, mais ils n'étaient pas rocardiens, ou ils l'ont été brièvement. Manuel Valls est resté dans cette ligne qui est celle de la deuxième gauche. Le problème, c'est qu'effectivement, il a eu raison trop tôt. Il a eu raison trop tôt quand il a compris que le PS était condamné, que le PS était marginalisé et que le sigle socialiste n'était plus vendeur. Alors il a été battu à la primaire par un candidat, Benoît Hamon, qui, rappelons-le, a fait un peu plus de 6% des voix au présidentiel. Donc effectivement, le PS était effectivement condamné. Enfin, le candidat des Républicains, on ne parle pas assez de la droite, mais le candidat des Républicains lui-même a fait un score misérable, ce qui prouve effectivement que les primaires sont une mauvaise solution pour sélectionner le meilleur candidat pour gagner les présidentielles. Il a eu raison trop tôt. Et surtout, il s'est fait voler ses idées par quelqu'un qui a gagné, lui. Parce que le social-libéral, il est au pouvoir aujourd'hui. Et le social-libéralisme est majoritaire aujourd'hui, enfin, dans la classe politique, puisqu'elle est la large majorité des députés au Parlement.
Est-ce que c'est. Alors, justement, j'aimerais savoir.
Il s'est fait souffler le job, c'est tout.
Est-ce que vous considérez, Bruno Cotterêts et Frédéric Metteuzot, que ce social-libéralisme, qui serait celui de Manuel Valls et dont il aurait hérité de Michel Rocard, c'est tout à fait le même que celui qui est au pouvoir aujourd'hui à travers Emmanuel Macron? Ou bien, est-ce qu'il y a quand même peut-être des petites nuances ou des différences suffisamment importantes qui pourraient justement expliquer cette présence importante de Manuel Valls dans l'espace médiatique, parce qu'il permettrait peut-être de couvrir un champ qui n'est plus couvert autrement. Bruno Cotterêts.
Oui, déjà, je dirais qu'effectivement, on constate qu'il y a un certain nombre d'idées, entre guillemets, du valsisme qui sont presque passées dans le domaine public, effectivement. Mais ça, c'est le destin de très nombreuses personnalités politiques. On a dit la même chose à propos de Ségolène Royal aussi à un moment donné, en disant qu'au fond, elle avait vu juste à travers ce que devait devenir le Parti Socialiste et ses limites. Et pour Manuel Valls, on est pleinement dans ce cas-là. Alors, est-ce que le social-libéralisme de Valls est exactement le même que Emmanuel Macron aujourd'hui? Je ne suis pas totalement sûr qu'on puisse complètement faire l'adéquation entre les deux. Je pense que chez Emmanuel Macron, il y a peut-être beaucoup plus que chez Manuel Valls l'idée d'une société qui est une société où les entrepreneurs ou ce qu'il appelle les premiers de cordée ont vocation à faire exemple, etc. C'est sans aucun doute beaucoup moins présent chez Manuel Valls. Et par contre, je dirais que Manuel Valls et son rôle aujourd'hui, son positionnement dans la vie politique et le rôle qu'il peut avoir, c'est vrai que les thèmes valsiens fondamentaux, c'est-à-dire les valeurs républicaines, la laïcité, le rôle de l'État, l'ordre républicain, le modèle républicain, le rôle de l'école, l'intégration républicaine par l'éducation, par les valeurs républicaines, etc. C'est vrai que ce sont des thèmes aujourd'hui qui sont à la fois tout à fait essentiels, mais qui ne sont pas forcément sur le devant de l'agenda politique du gouvernement ou du pouvoir aujourd'hui.
Alors on va revenir un petit peu plus tard justement sur ces valeurs républicaines, mais pour rester sur les questions économiques et sociales et celles du réformisme qu'incarnait évidemment Michel Rocard. Il y a eu une interview récente dans Les Échos de Manuel Valls, Frédéric Metteuzot, où il était interrogé justement sur la façon dont Emmanuel Macron mène ses réformes. Alors était-ce pour se distinguer un peu ou était-ce par pure conviction? Mais en tout cas, il prônait quelques petites distances sur la méthode en rappelant finalement son attachement à la démocratie sociale, en disant en gros il faut pas non plus brusquer les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, c'est important dans la démocratie sociale.
Certains partenaires sociaux, en l'occurrence c'est la CFDT et l'UNSA, dit réformiste, pôle réformiste aujourd'hui. Manuel Valls, si on devait faire une classification un peu plus fine, Manuel Valls reste un social-démocrate avec effectivement cet appui sur la CFDT, sur les corps intermédiaires, alors que Emmanuel Macron serait nettement plus social-libéral avec les corps intermédiaires qui seraient court-circuités au profit effectivement des premiers de cordée. Alors Manuel Valls aujourd'hui, c'est vrai qu'il a beau jeu de dire qu'il ne faut pas court-circuiter les corps intermédiaires, qu'il ne faut pas brusquer les choses, quand on se souvient que c'est lui qui fait passer la loi Macron au 49-3 alors qu'Emmanuel Macron souhaitait un vote au Parlement et qu'il fait passer la loi El Khomri au 49-3 qu'il a ensuite regretté, vous vous souvenez, pendant
oui, parce
la
que pendant la campagne des primaires,
il avait dit c'est dommage
il est pour la suppression du 49-3.
Voilà. Bon. Donc voilà,
changer d'avis en même
la,
temps.
Effectivement, Manuel Valls n'étant plus aux affaires, peu en activité au gouvernement, il peut se permettre de faire cette leçon de démocratie sociale à Emmanuel Macron. Faut pas oublier qu'il était au moins aussi raide avec tous les corps intermédiaires qu'il ne pense qu'Emmanuel Macron l'est aujourd'hui.
Dans cette interview pour Les Échos, il a notamment cette phrase, Brice Couturier, « Il faut savoir à la fois bousculer les partenaires sociaux et les respecter, le chemin est étroit ».
Ah, je suis d'accord avec Frédéric Médézo, absolument là-dessus. Effectivement, Valls, lui, est un social-démocrate et Macron ne l'est pas. Macron est un social-libéral. Effectivement, c'est pas la même famille. Mais tous les deux sont des réformistes, tous les deux dans une tradition, disons, mendésiste. Et puis, Rocard a été quand même un des pères de Macron, faut pas l'oublier, comme il a été aussi lui le fabricant de Valls. Mais je voulais revenir sur autre chose qui me paraît intéressant quant à la différence de stratégie entre Macron et Valls. Valls, en tant que rocardien, c'est quelqu'un qui est fidèle à son parti. Figurez-vous, il a pris sa carte au Parti Socialiste dans ma section du 4e arrondissement. J'étais là, je m'en souviens. Et il avait 18 ans, il a adhéré en disant « Je viens prendre ma carte au Parti Socialiste pour soutenir Michel Rocard ». Et je me souviens de ce garçon qui avait un regard brûlant, qui était vraiment un militant dans l'âme. Comme un militant dans l'âme, il a toujours été extraordinairement dévoué à son parti. C'est un militant, il subit l'autorité du parti. Et il le quitte qu'au dernier moment. C'est pour ça que Rocard a essayé de conquérir la présidence de l'intérieur du parti. Et c'était son erreur. Car face à Mitterrand, il n'avait bien entendu aucune chance.
Enfin, idée. Pardonnez-moi, juste, vous dites dévoué à son parti jusqu'au moment où il refuse de soutenir celui qui gagne les primaires.
Enfin, de l'âge de 18 ans jusqu'à...
Dévotion,
De 1980 jusqu'à 2017, il a été un petit lieutenant fidèle du Parti Socialiste, y compris auprès de Lionel Jospin, ce qu'on oublie parfois. Il a été aussi un serviteur de Jospin pour sa communication. Mais la grande différence, si vous voulez, c'est que Macron, lui, a compris que le Parti Socialiste, c'était mort et enterré, et qu'il fallait pas conquérir de l'intérieur le Parti Socialiste, c'était pas la peine d'essayer, qu'il fallait créer sa propre petite structure à côté, et que c'était là qu'on avait des chances de faire passer les mêmes idées, en gros, ou pas très loin, de celles du rocardisme, du mendésisme, et donc de Manuel Valls. Donc la grande erreur de Valls, finalement, ça a été d'attendre beaucoup trop tard, pour quitter le gouvernement. Moi, ça me paraissait évident, quand il était encore aux affaires à l'été 2016, je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend pour s'en aller, et pour claquer la porte? Et il a claqué la porte beaucoup trop tard. Macron, lui, était parti, il avait compris.
Alors aujourd'hui, Manuel Valls, il est député, il est apparenté La République En Marche, sans en faire parti. Je rappelais qu'il n'a pas été présenté par la formation majoritaire pour les dernières législatives. D'ailleurs, il a subi un second revers au moment des sénatoriales, puisque la liste qu'il soutenait n'a pas non plus été soutenue par La République En Marche. Il pèse quoi politiquement aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que de la même façon qu'on pouvait parler, de Hollandais à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut parler de d'un petit groupe, malgré tout, valsiste, aujourd'hui, au Parlement, Bruno Cotterêts?
Je crois que dans la grande perturbation électorale que notre vie politique a connue depuis les élections de 2017, il est très difficile aujourd'hui de sous-peser ce que représente le courant valsiste. S'il y en a un, je crois que pour le moment, Manuel Valls a d'abord, avant tout, gagné ses galons en termes de reconstruire sa vie politique à partir de ce qui semblait, il y a encore quelques mois, une descente aux enfers. Parce qu'il y a quelques mois, Manuel Valls est non seulement l'une des personnalités politiques, vous le disiez dans l'opinion, les plus maltraitées, mais c'est également quelqu'un qui a été humilié d'une certaine manière, un ancien Premier ministre qui est quelques mois avant au pouvoir et qui voit l'un de ses anciens ministres lui demander de déposer un CV pour être député, etc. Donc je pense que dans un premier temps, Manuel Valls, d'abord et avant tout, a reconstruit un parcours politique personnel. Son élection a été contestée, elle n'a pas été invalidée finalement. Donc au fond, il n'y a que quelques semaines, quelques mois, que Manuel Valls a retrouvé les coudées franches pour se réaffirmer. Et d'ailleurs, on le voit depuis quelques semaines, sur un certain nombre de thèmes, revenir progressivement dans le débat public et dans l'espace public.
Mais est-ce qu'il ne lui a quand même pas fallu forcer un petit peu le trait, justement, pour opérer ce retour, en particulier ce retour médiatique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant, finalement, les journalistes, chez Manuel Valls, Frédéric Mettezo? Pourquoi est-ce qu'on l'entend autant? Pourquoi est-ce qu'on le voit autant?
Mais c'est le syndrome du bon client. C'est le syndrome du bon client. Manuel Valls qui vous fait une interview, vous êtes à peu près sûr qu'il y aura une proposition choc, une formule choc, interdire le salafisme. Il y a 2 ans, c'était une proposition de loi de Nathalie Kosciusko-Morizet et le Premier ministre Manuel Valls disait « bah non, c'est pas possible, on ne peut pas considérer que le salafisme est une secte ». Aujourd'hui, il dit qu'il faut combattre le salafisme comme une secte. Donc ça, c'est l'effet punchline. Et parfois, précisément, l'exposition médiatique récurrente et quasi permanente permet de masquer une inexistence politique. Vous demandiez, Hervé, s'il y a des valsistes à l'Assemblée. Il y a un valsiste à l'Assemblée, c'est Manuel Valls. Ses anciens camarades parlementaires qui le soutenaient ont soit pris leur retraite politique, comme Jean-Marie Le Guen, soit ont été battus, comme Philippe Doucet, qui était député du Val-d'Oise. Ensuite, Valls, il s'est fâché
soit
avec...
Soit s'en éloigne, comme Luc Carvounas, hein, qui pendant la campagne pour la...
Carvounas, ou se sont retrouvés en race campagne, comme Carlos Da Silva, qui était le suppléant de Manuel Valls. Ça, c'est pas forcément des noms très connus du grand public, mais voilà, c'était le pack de Manuel Valls. C'était son gang. Donc aujourd'hui, de façon structurelle, il n'y a pas de valsiste à l'Assemblée, il n'y a pas de valsiste au gouvernement. Et si vous regardez bien, La République En Marche a bien pris soin de mettre face aux candidats supposés valsistes des gens qui allaient les battre aux législatives.
Alors il n'y a peut-être pas un socle, disons, d'élus politiques qui pourraient faire en sorte de faire exister le valsisme, mais il y a quand même des relais d'opinion qui portent justement sur les valeurs que vous énonciez tout à l'heure.
Attendez,
Bruno Cotresse.
Je voudrais intervenir, oui, à mon tour sur ce sujet, parce que je ne l'ai pas encore fait. Quand on dit il n'y a pas de valsistes, c'est sympa, mais il n'y a pas de frondeurs non plus, je vous signale. Il y avait des frondeurs, il y avait des partisans de Martine Aubry. Aujourd'hui, il y a Régis Juanico, il est absolument le seul des frondeurs qui reste. Il n'y a plus aucun, député écologiste. Cécile Duflot vient d'annoncer qu'elle prenait son congé de la vie politique. Donc, on voit bien que, et puis vous savez, le Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, c'est 30 députés en tout et pour tout. Donc, s'il y avait un courant valsiste à l'Assemblée, ça ferait pas grand monde non plus.
Valls et les frondeurs se sont autodétruits en
2016-2017. Quand on dit que Valls a du mal à exister. Je veux dire, on pourrait se demander aussi pourquoi les frondeurs ont disparu, pourquoi les écologistes ont disparu.
Oui, on pourrait faire tout un tas d'autres émissions, mais enfin là, vous avez remarqué, la question ce soir, elle porte sur le valsisme.
Oui, mais je veux juste vous faire remarquer à vous que quand vous dites que le courant valsiste est faible, je vous fais remarquer que le courant frondeur, lui, a disparu.
Oui, enfin, on pourrait citer tout un tas d'autres courants, effectivement, qui existent peu. On pourrait même parler du MoDem, si vous voulez,
simplement, on parlait du Parti Socialiste, je vous parle du Parti Socialiste. Voilà.
Mais si vous voulez bien, on va rester sur le thème ce soir, Brice Couturier. Je ne sais pas pourquoi vous énervez d'un seul coup.
Je voudrais juste la parole quand tous les deux autres l'ont eu et qu'on vous apprêtiez à donner la parole à quelqu'un d'autre.
Et si vous voulez bien, c'est moi qui distribue la parole. C'est un petit peu le principe. Vous avez animé cette émission. Vous savez comment ça fonctionne. Merci, Brice. Bruno Cotresse, j'évoquais donc ce manque peut-être de relais, en tout cas, parmi les élus. Mais il y a quand même des relais d'opinion avec, notamment, je pense au printemps républicain, c'est-à-dire avec des thèmes qui sont extrêmement proches et qui sont eux très présents justement dans le débat médiatique. Est-ce que c'est ce qui lui permet aussi justement de faire entendre sa voix, c'est-à-dire d'être sur des questions qui sont peut-être assez peu prises en charge, au moins dans la majorité aujourd'hui?
Oui, sans aucun doute que le fait que la majorité aujourd'hui se positionne peu, au fond, l'agenda de la majorité aujourd'hui, c'est un agenda essentiellement de réforme économique et sociale. Donc le fait que l'agenda du gouvernement soit autant saturé sur les questions économiques et sociales a sans aucun doute dégagé un peu d'espace pour d'autres questions qui ont été des questions qui ont beaucoup préoccupé le débat public en France depuis 15, 20, 30 ans. La question, bien sûr, de la laïcité, la question de la place des religions dans l'espace public aujourd'hui, les questions plus globalement, on va dire, d'immigration, de mixité sociale, qui sont des questions qui ont toujours été des questions sur lesquelles Manuel Valls a su occuper le terrain. Donc évidemment, ça a dégagé de l'espace idéologique et de l'espace du débat public pour que Manuel Valls continue d'être une voix qui, sur ces questions, et dans une partie de la gauche, est une voix qui compte. Effectivement, dans cette gauche qui est très sur les valeurs de la République, sur la question de la laïcité, mais qui fait aussi le lien entre les questions de la laïcité, les questions de l'intégration républicaine et aussi les questions économiques et sociales, la voix de Manuel Valls est sans aucun doute une voix qui continue de compter.
Alors, il y a un discours d'Emmanuel Macron qui est attendu justement sur ces questions de laïcité, Brice Couturier. Est-ce que ces valeurs que porte Manuel Valls, elles diffèrent de celles que porte Emmanuel Macron? Même si, alors, on attend son discours, mais enfin, on sait quand même un petit peu comment il se positionne. On se souvient d'ailleurs notamment qu'après les attentats, il y avait eu une petite rivalité entre les deux. Lorsque Emmanuel Macron avait expliqué qu'il y avait des explications, que la société était en partie responsable, pas exclusivement bien sûr, mais en partie responsable de ce qui s'était passé. Et Manuel Valls avait répliqué en disant « expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser ». Donc on est quand même a priori sur deux conceptions assez différentes.
On a eu trop tendance, à mon avis, à caricaturer la position d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Quand on prend à la lettre le livre qu'il a écrit, Révolution, qui était donc son programme, on voit qu'il parle de reconquête culturelle des quartiers. On voit qu'il dit qu'il faut combattre le salafisme qui s'est implanté dans nos quartiers et qui s'est substitué au système d'aide sociale. Donc c'est la droite qui met tout le temps en valeur, en évidence, le fait que Macron serait un culturaliste, aurait une explication au contraire sociologisante des phénomènes terroristes. C'est pas du tout le cas de Macron, mais la droite a tellement répété ça qu'on finit par le croire. Quand vous prenez les textes de Macron, il est ambigu en effet. Il est ambigu parce qu'il dit qu'il y a des causes sociologiques, ce qui est assez évident d'ailleurs. Il y a le mépris, il y a l'absence de débouchés professionnels, et puis il y a aussi les problèmes culturels. Il y a aussi les problèmes culturels que pose l'islamisme, qui est cette utilisation politique d'une religion qu'est l'islam. Et Macron a les deux fers au feu. Le problème, c'est qu'il garde les deux, vous savez, c'est en même temps, hein. Il garde les deux fers au feu. Valls, lui, insiste beaucoup plus sur l'aspect culturel que sur l'aspect sociologique. Encore que l'aspect sociologique n'est pas non plus absent du discours de Valls.
Donc, vous diriez qu'il y a moins d'ambiguïté du côté de Manuel Valls sur ces questions ?
Oui, probablement. Moyennant quoi, quand vous regardez dans l'entourage même de Macron, les discours que tiennent Madeleine Schiappa, qui est la ministre de l'égalité homme-femme, elle est beaucoup plus claire, elle est sur une ligne tout à fait valsiste. Quand vous citez, si je vous cite certains discours de Schiappa, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui la séparent de Valls. Donc je comprends assez bien que Macron hésite. Il nous avait promis un grand discours sur la laïcité en janvier, on l'attend toujours. Il hésite parce qu'effectivement, c'est un terrain extrêmement sensible, on marche dans un champ de mine, hein.
Frédéric Mettezot.
J'ajoute qu'on a eu une ébauche de discours d'Emmanuel Macron sur ce thème à côté du cercueil du colonel Beltrame il y a 15 jours. Quand il dit avec force que le terroriste sera la honte de ses co-religionnaires et de sa famille, quand il en appelle à la fin du relativisme culturel, c'est au moins une ébauche de discours. C'est peut-être pas un très long paragraphe, mais le discours est fort. Et effectivement, je pense que là, c'est la droite vauquiésienne, je sais pas comment il faut dire, qui enfonce le clou et qui est peut-être parfois un peu trop facilement repris par la presse. Sur le positionnement et sur les débats qui avaient suivi les attentats du 13 novembre, c'était aussi sur... Là encore, c'était une question de méthode. Et on avait le Valls plutôt raide, un peu brutal, et le Macron plus dans une démarche de pensée complexe. Emmanuel Macron avait insisté sur l'importance des chercheurs et des sociologues. Il avait dit qu'il fallait passer par ce filtre pour comprendre, alors que Valls, lui, était effectivement dans une réponse beaucoup plus franche, beaucoup plus nette. Non, on n'excuse pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est comme sur les problématiques économiques et sociales. Valls essaye de faire preuve de complexité, alors que Macron serait tenté de taper un petit peu plus fort, parce qu'il est en responsabilité. Il a employé des mots très durs quand il parle... Il emploie formellement le mot de terrorisme islamiste. Ça a été beaucoup reproché à François Hollande de ne pas l'employer. Macron l'a employé.
de complexité. Quand on se souvient, il y a quelques semaines, de la polémique qui a opposé Mediapart à Charlie Hebdo, dans laquelle Manuel Valls a été impliqué, notamment mise en cause par Edoui Plenel, qui considérait que Manuel Valls jouait un jeu un petit peu trouble, qu'il allait du côté des identitaires de droite, et que Manuel Valls lui répond en disant qu'il fallait faire rendre gorge à ces gens-là. On n'est pas vraiment
pas très
dans
complexe, là. Je suis d'accord.
Bruno Cotresse.
Non, effectivement, là, on n'était pas du tout dans de la pensée complexe, effectivement. C'est vrai que Manuel Valls, de ce point de vue-là, on le disait tout à l'heure, a une très grande capacité à régulièrement venir sur des expressions, effectivement des mots très 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 marquants, très forts sur ces questions. Il le porte, je dirais, depuis longtemps. Il est fortement identifié dans l'opinion sur ces questions-là. Dans une première étape de sa vie politique, il était très en pointe et très identifié sur les questions de sécurité. À l'intérieur du Parti socialiste, ça avait beaucoup contribué d'ailleurs au fait qu'il s'était retrouvé place Beauvau ministre de l'Intérieur. Et donc Manuel Valls a toujours été dans cette continuité, la question de la sécurité, de l'ordre républicain, la question de l'intransigeance sur la question de la laïcité, même s'il avait fait des propositions d'aménagement ou de reconfiguration de la loi de 1905. Mais c'est vrai que sur ces domaines-là, Manuel Valls a toujours des positions qui sont extrêmement clivantes.
Alors, même si historiquement, le républicanisme auquel il se réfère, c'est notamment celui de Georges Clemenceau, qui faisait partie des républicains réalistes. Voilà. C'est-à-dire que ce n'étaient pas forcément les plus absolutistes, disons.
Les plus absolutistes, voilà, tout à fait.
Face à Briand aussi, dans le contexte de la loi de la loi.
Bien sûr, le contexte était différent.
Peut-être Briand et Clemenceau étaient comme sur des lignes assez divergentes.
Alors sur ces questions, c'est vrai que lorsque Manuel Valls dit il faut faire rendre gorge, etc. Bon, là c'est vrai qu'on retrouve le Manuel Valls tel qu'une partie de la gauche le déteste, c'est-à-dire provoquant, donnant le sentiment qu'il met de l'huile sur le feu. Et ça explique d'ailleurs sans aucun doute à la fois l'intérêt toujours qu'ont les médias. On parlait tout à l'heure de quelle est la place de Manuel Valls aujourd'hui, l'intérêt qu'il peut susciter. Il y a un côté, chez Manuel Valls, je dirais, qui est un personnage presque dramatique. Il a des hauts et des bas terrible dans sa vie politique, les mots sont toujours forts, il a des passages médiatiques qui sont souvent caractérisés par des propos très enflammés, il est un homme qui symbolise la conviction politique dans ce qu'elle peut avoir de plus passionné, donc c'est un personnage extrêmement intéressant de ce point de vue-là.
Frédéric Métezeau et ensuite Brice Couturier.
Il a deux discours qui ont fait date à l'Assemblée. C'est son premier discours d'investiture de Premier ministre, qui est un discours extrêmement éloquent, où il rappelle sa naturalisation à 18 ans. Et puis, il y a le discours qui suit les attentats du 13 novembre à l'Assemblée nationale. C'est là qu'un député de droite commence à chanter la Marseillaise après le discours de Manuel Valls. Ce n'était pas arrivé depuis la victoire de 1918. Et c'est vrai que ce sont deux beaux discours, deux grands moments d'éloquence. Effectivement, il a cette part épique en lui.
Brice Couturier.
Oui, c'est un personnage dramatique, je suis d'accord. C'est aussi un personnage clivant. Beaucoup d'hommes politiques. Enfin, aujourd'hui, les hommes politiques qui ne sont pas clivants, ils ont presque tous disparu. Je me faisais juste la réflexion. C'est un ancien Premier ministre, il est encore député. Mais qui se souvient de Jean-Marc Ayrault et de Bernard Cazeneuve, qui ont été aussi Premier ministre de François Hollande et qui ont disparu dans la nature, qui ne sont plus députés, qui ne sont plus rien du tout, quoi. Même Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste au présidentiel, a perdu sa place de député. Donc, il n'y a pas tant que ça de socialistes qui sont encore. Qui sont encore dans les affaires. Et certainement, Valls représentera quelque chose, c'est évident. Si vous voulez, il y a un autre problème qu'on n'a pas encore.
Quand vous dites représentera, c'est-à-dire dans le futur,
Que dans l'avenir, il va compter. Vous savez, il y a un problème qu'on n'a pas évoqué, c'est un problème psychologique. C'est qu'entre Valls et Macron, il y a une détestation très profonde. Parce que Valls a empêché Macron de présenter le projet de loi Macron 2, qui voulait libéraliser un peu plus le code du travail, et que finalement, c'est El Khomri qui a présenté le dossier, alors que Macron tenait à le faire lui-même. Et depuis, je crois savoir qu'il y a entre les deux hommes une hostilité très vigoureuse. Ça explique aussi beaucoup de choses quant à leur divergence. Mais en réalité, sur le fond, ils sont très proches. Ils sont très proches, mais comme on l'a très bien dit au cours de cette émission, il y a des spécificités valsistes, notamment sur la question de la laïcité, de l'union républicaine. Si vous voulez, Macron est un libéral, donc il croit à une société diversifiée. Il croit à une société dans laquelle les lobbies et les syndicats et les différentes corps intermédiaires s'équilibrent mutuellement. Regardez la composition des différentes instances de la, vouées à la définition de la laïcité qu'il a nommée. Vous avez des gens très très différents et l'idée de Macron, c'est qu'ils vont s'équilibrer mutuellement. Valls, lui, est beaucoup plus dans une logique républicaine qui se méfie des factions, comme les républicains d'habitude, et qui croit à l'idée d'une unité nationale, qui croit à l'idée d'une volonté nationale, d'une souveraineté populaire, et c'est une autre logique.
Et remarquez, on sait que c'est justement quand il y a de la proximité qu'il peut y avoir aussi des fois de la rivalité aux défections.
Oui, mais encore une fois, c'est une proximité avec une grande différence. Vous avez un libéral et vous avez un républicain. Ils sont d'accord sur la politique, mais philosophiquement, ils sont extrêmement différents.
Alors pour cette émission, on voulait passer un extrait de Manuel Valls. On n'avait pas la mémoire des deux discours que vous avez évoqués, Frédéric Mettezon. On s'est un petit peu creusé la tête et puis on s'est dit que finalement, pour entendre Manuel Valls, il fallait peut-être l'entendre dans une autre voix que la sienne. Nous sommes en octobre 2014, François Hollande décore son Premier ministre. Il lui remet la Grand Croix de l'Ordre National du Mérite.
Une des figures qui vous sert de référence est celle de Clémenceau. C'est un personnage controversé, y compris au sein de la gauche française. C'est sans doute pour ça que vous l'avez utilisé, car vous aimez la controverse, à condition qu'elle soit un facteur de débat, de contradiction et en même temps de synthèse, car il faut aussi qu'il y ait des hommes de synthèse dans la République. Très important dans les références que chacun peut avoir. Si vous aimez Clémenceau, c'est parce que je connais bien son parcours très long, ce qui vous laisse grand espoir. Commencer au moment de la Commune de Paris et terminer, non pas comme on le croit, à la fin de la Première Guerre mondiale, car il a continué à produire, à écrire, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République.
Voilà, François Hollande décorant Manuel Valls. On appréciera au passage l'ironie qui était toujours quand même assez présente dans les discours de l'ancien président de la République, Frédéric Mettezo.
C'est un magnifique moment de cruauté politique. C'est du Mitterrand jovial, mais c'est aussi cruel que Mitterrand. Tout petit souvenir personnel, j'avais déjeuné juste après cette remise de décoration avec un ministre du gouvernement Valls qui avait assisté à ce discours, qui était sidéré. C'est quand même un vrai moment d'humiliation de Manuel Valls. C'est en présence de la maman de Manuel Valls que François Hollande, sourire aux lèvres, se livre à ça. Et c'est un exercice effectivement extrêmement ironique et extrêmement mordant.
Morian Cotterêts.
Moi, je trouve que c'est un moment, j'allais dire délicieux, de ce couple infernal de la Ve République, du président et du Premier ministre. C'est vraiment un duo infernal. On ne peut pas en sortir. On verra à quel moment, pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ça se traduit. Mais là, on est vraiment dans ce moment tout à fait délicieux, c'est-à-dire le jeu de chat et de la souris entre le Premier ministre et le président. Ce qui est intéressant, c'est que François Hollande souligne chez son Premier ministre, chez Manuel Valls, le côté qu'il aime le combat. Il aime le combat politique, il aime le combat idéologique. Et ça, c'est vrai que ça caractérise vraiment pour moi Manuel Valls. C'est un homme de combat qui aime le combat, qui aime l'adversité. On l'a vu se redresser, on l'a vu repartir au combat. Donc je pense que dans la mythologie de Manuel Valls, et de ce qui fait qu'on s'intéresse à ce personnage ce soir, toujours, ben, je pense que cette dimension est tout à fait essentielle. Pour revenir un peu sur son positionnement et rebondir sur quelque chose d'important qu'a dit Brice tout à l'heure sur la différence entre républicain et libéral. Alors, c'est vrai que si on prend tous les pays européens, on va voir que dans tous les pays européens, la gauche a été beaucoup perturbée par l'émergence d'une politique en deux dimensions. Pas seulement la dimension socio-économique, mais la dimension des questions de valeurs, de société, de changement social, etc. Donc on le trouve dans tous les pays européens et on le trouve en France. Mais en France, il y a quelque chose qui vient percuter un peu tout ceci, qui est la question effectivement de la laïcité, des valeurs républicaines et de la République, qui là, par contre, nous est très, très, très spécifique en France. Et régulièrement, nous voyons des personnages de notre vie politique qui viennent occuper un positionnement extrêmement original parce qu'ils sont un peu dans tous ces registres à la fois. Manuel Valls, c'est à la fois l'intransigeance qu'il incarne sur la question des valeurs républicaines, mais en même temps, c'est un fils de la gauche rocardienne qui était une gauche qui, du point de vue du changement social et de l'incarnation de cette deuxième gauche, a été très, très importante. Donc on retrouve dans notre vie politique régulièrement un personnage comme ceci qui va incarner ce positionnement.
Moi, je voudrais revenir sur l'affaire Clémenceau, là, le discours qu'on vient d'entendre, parce que ce qu'on peut entendre aussi, je ne sais pas si c'était l'intention de François Hollande, je pense que c'était pas le cas, c'est que des personnages comme Clémenceau sont des personnages qui nous arrivent régulièrement dans notre histoire dans les cas de crises gravissimes, dans le cas d'invasion du territoire, dans le cas de guerre civile. Nous avons ces hommes providentiels, autoritaires et fortement républicains, qui nous sortent de la mouise. On peut penser à De Gaulle aussi. La vraie question que je me pose personnellement en tant qu'auteur d'un livre consacré Emmanuel Macron, c'est que vaudra Emmanuel Macron le jour où nous aurons affaire à une crise grave ? Parce qu'avec des formules comme « et en même temps », n'est-ce pas, il est très difficile de faire face à une crise dramatique mettant en jeu l'existence même de la nation et son unité. Valls, que vous me demandiez tout à l'heure, quel est l'avenir de Manuel Valls, il en a un tout trouvé en cas de crise de cet ordre. Si demain les attentats ne tuent plus seulement quelques centaines de personnes, mais quelques milliers, que se passera-t-il dans le pays ? Je pense que des gens comme Manuel Valls seront capables d'incarner une solution. Pour l'instant, Emmanuel Macron, je ne le sais pas.
En tout cas, cette ambition présidentielle, alors on entendait dans le discours François Hollande dire on peut réussir sa vie sans être président de la République, ce qui, et heureusement d'ailleurs, ça nous arrange autour de cette table, j'imagine, enfin, sauf si vous me dites que vous avez envie de devenir président. Mais cette ambition-là, elle est toujours aussi présente, Frédéric Mettezo ?
Écoutez, il était le mois dernier, Manuel Valls, à l'ESSEC, l'école de commerce installée à Cergy-Pontoise. Il est interrogé par les étudiants un petit peu à la fin qui lui demandaient s'il avait des passions, des hobbies, etc. Il leur a répondu « J'aime le jeu d'échecs, les échecs, ça fait travailler le cerveau et à la fin, on tue le roi. »
Ah oui, c'est pas mal, hein, ça. Vous jouiez aux échecs quand vous le côtoyez, il y a quelques années de ça, Brice Couturier ?
Pas que je me souvienne, non. Vous savez, c'était quelqu'un, mon souvenir, c'est quelqu'un de jeune et d'extraordinairement sérieux. Dans les genres rocardiens, il y avait des fantaisistes comme Alain Bauer, qui imitait admirablement les autres dirigeants du Parti Socialiste en se moquant d'eux, debout sur une chaise. Et Valls, il rigolait jamais. Il était follement sérieux, persuadé de l'importance de sa mission et fidèle à son chef.
Uniquement pour le plaisir de pouvoir ressortir cette émission en archive dans quelques années, si jamais en 2022 Manuel Valls devenait le favori de la présidentielle, voire le prochain président de la République, Bruno Cotterêts. En tout cas, est-ce que c'est une hypothèse qui paraît totalement absurde aujourd'hui ou bien est-ce qu'il faut quand même la garder dans un petit coin de sa tête ?
Ça fait un gros if. Comme disent les Anglais. Quand même, je pense que les conditions politiques pour que Manuel Valls réémerge comme candidat potentiel à une élection présidentielle, en tout cas aujourd'hui, ne sont nullement réunies. On voit mal comment elles vont l'être à nouveau, parce que Manuel Valls, malgré qu'il le veuille ou pas, Manuel Valls est quand même très fortement associé dans la culture politique française à la fin du mandat de François Hollande et au côté dramatique de la fin du mandat de François Hollande. Il sera difficile à tous les acteurs de cette période de retrouver un grand destin national.
Eh ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Bruno Cotterêts, Frédéric Mettezo et Brice Couturier. Brice, on vous retrouve, hein, même si on se chamaille un petit peu tous les vendredis quand vous êtes là. Mais finalement, vous revenez. Hein, on s'aime
merci
bien quand même.
Merci de votre invitation. Oui.
Merci à tous les trois. Merci également à toute l'équipe du Grand. Antoine Dulster, Leïla Saïdi, Fanny Richet, Virginie Ledoux. Et Prune 16, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Jean-Benoît Tétu, Stéphane Desmonts et Éric Villenfant. Ai-je précisé au début de l'émission que nous étions au Bel Air à Radio France ? Ben, je le fais